Alors aujourd'hui, à l'émission Rêver pour moi, je reçois Nelly Ojikian. Nelly, aujourd'hui, le jour de l'enregistrement, nous sommes le 24 avril et tu m'as dit que c'était une date très spéciale pour toi. Alors j'aimerais peut-être que tu commences par ça, par nous expliquer ce que représente le 24 avril.
Bon, merci d'abord de m'avoir invitée, Catherine. En fait, on n'avait pas planifié que ce soit ce jour-ci, notre rencontre, le 24 avril, mais c'est tombé comme ça, tout seul, et je m'en suis rendu compte plus tard. Et quand j'ai commencé à y réfléchir, j'étais bien sûr pas mal affectée. Et bon, voilà, je dois dire pourquoi le 24 avril, c'est le jour où le génocide systématique des Arméniens a commencé. Il a commencé par la déportation et le massacre, la tuerie de plusieurs centaines d'intellectuels arméniens qui formaient l'élite de la communauté arménienne à Istanbul. Une communauté qui comptait bien sûr dans les centaines de milliers, mais d'autres centaines de milliers. Il y avait au moins 2 millions d'Arméniens dans tout l'Empire ottoman en 1915, avec une longue histoire, des racines, puisque c'était le pays ancestral qui faisait partie de l'Empire ottoman, qui a subi plusieurs occupations par plusieurs tribus, des Mongols par exemple, des Tatars qui a commencé par là. Mais finalement, dans l'Empire ottoman, donc, il y a eu des frictions, des conflits qui ont mené à cette décision, cette volonté humaine d'éradiquer, de déraciner, de déporter et de presque annihiler toute la population arménienne. Mais ça a commencé le 24 avril avec donc la prise en otage, prise au camp des intellectuels arméniens. Et cela me touche d'autant plus que je me compte une intellectuelle qui travaille avec des sujets arméniens, des sujets de la diaspora arménienne qui est née de ce génocide. Je suis une fille de la diaspora arménienne qui est née du génocide.
Une fille du
Quand,
génocide aussi.
oui, finalement, même si ça fait 3 générations, je m'identifie à ceci. Je suis née d'un Big Bang génocidaire. Et bien sûr, cette structure génocidaire que je suis en train d'étudier, qui est vraiment le contraire d'une structure de base psychique qui serait une structure basée sur l'interdiction du meurtre de l'humain, eh bien dans le génocide, la structure génocidaire, nous sommes exclus de cet interdit puisque l'interdit ne s'est pas appliqué à la population génocidée. Et il y a des conséquences, bien sûr, et c'est incroyable de voir que cet interdit qui a été exclu, il a exclu d'autres interdits, comme celui de l'inceste.
Ah oui.
Oui, parce que la structure génocidaire qu'on voit dans les familles du génocide, non seulement les Arméniens, mais d'autres génocides ou d'autres massacres, que la structure familiale est très incestuelle. C'est pas incestueux, mais incestuel, mais ça reste dans le même champ de structure. Et voilà, donc ce qui fait partie de mon travail me touche personnellement. C'est mon histoire, l'histoire de ma famille, de mes grands-parents qui sont survivants. Donc mes 4 grands-parents sont des survivants du génocide arménien. Voilà, je ne sais pas si tu veux que je continue dans ce
Ben non, je vais
sens.
peut-être te demander tout de suite, toi, donc, la petite fille de ces 4 survivants, tu nais en diaspora, tu nais dans la diaspora, et tu nais où? Alors, comment tu nais, et puis en même temps, qu'est-ce que c'est naître de ces 4 survivants? Hein, qu'est-ce que c'est ça?
Oui, c'est incroyable parce que c'est quand même être. C'est pas juste naître, mais c'est être. Qu'est-ce que c'est être fille de survivant? Surtout que mon père est venu là où il est venu, je vais te dire dans un instant. Mais il avait 6 mois lorsqu'il a été. Donc, ils ont. Les grands-parents, mes grands-parents, se sont échappés. Ma grand-mère a été orpheline. Ma grand-mère paternelle était orpheline dans un orphelinat, mais elle a été prise en charge par une famille grecque. Et j'ai eu un lien avec cette langue, cette musique, puisqu'elle écoutait tous les dimanches la radio grecque. C'était pour elle sacré. Au Liban, elle devait écouter la radio grecque une fois par semaine à la radio, donc les dimanches. Son mari, donc mon grand-père paternel, était d'Istanbul, mais il avait été exilé en Sibérie, mais s'échapper. Finalement, ils ont fini au sud de la Turquie dans les années 30. Et vers la fin des années 30, il y a eu un grand exode avec des gros bateaux qui sont arrivés du sud de la Turquie, de la Syrie, à Beyrouth. Et de Beyrouth, plusieurs centaines de réfugiés ou dizaines de milliers de réfugiés arméniens ont été placés tout de suite presque à Tyr, dans le sud du Liban. Et là-bas, c'est une histoire, je ne sais pas par où commencer à la raconter, mais dans le sud du Liban, ça c'est en 1947, oui, 47, les Arméniens ont construit un camp de réfugiés avec l'aide des missionnaires français, qui étaient, bien sûr, tu sais bien que c'était des colons au Liban. Et donc les Arméniens sont restés là jusqu'à, voilà, excusez-moi, ils sont restés jusqu'à 47 dans ces camps, dans ce camp qu'ils ont construit avec les Français. Et en 1947, le gouvernement soviétique a demandé aux Arméniens de la diaspora de retourner à l'Arménie. Donc la République soviétique, sinon il n'y aura pas de République. S'il n'y a pas assez d'Arméniens qui vivraient dans l'Arménie soviétique, il n'y aura pas une République. Donc les Arméniens se sont motivés pour y aller, entre guillemets, y retourner. Mais des dizaines de mille sont partis, sauf deux familles ou quelques autres. Comment dire? Quelques autres. Pas orphelins, mais des veufs. Voilà, veufs et
D'accord.
veuves qui sont restés. Et donc deux familles qui seraient la famille de ma mère et la famille de mon père, qui ne voulaient pas du tout rien savoir d'un système communiste. Donc, ils sont restés dans ce camp. Et en 1948, qu'est-ce qui était arrivé? Les Palestiniens ont été chassés de leur maison et ils ont marché de leur maison, donc de Haïfa, de Yafa, à pied jusqu'à ce lieu qui était le camp arménien,
C'est
mais
vrai.
vidé. Et ils se sont installés dans les maisons des Arméniens,
Et il
mais
restait
vides maintenant. Oui, il restait des maisons vides.
quelques
Oui, il
Arméniens.
restait quelques Arméniens, comme je vous dis, moi, ma famille, la famille de mon père, la famille de ma mère, et
Est-ce qu'ils se
bien
sont
sûr, j'étais pas née
mélangés?
encore.
Est-ce qu'ils se sont mélangés les gens? Est-ce qu'ils se sont Comment a été la
Ben
cohabitation?
voilà, la cohabitation est que moi, très vite, bon, ça c'est plusieurs années plus tard, ma mère n'était pas encore née, mon père. Comme ils étaient les seules familles arméniennes, les couples étaient déjà décidés qui allait marier qui. Donc mon père et ma mère se sont mariés parce qu'ils étaient le seul couple arménien possible. Et quand je suis née, bon, quand j'ai grandi un peu, je commençais à entendre parce qu'il y avait plein d'enfants qui jouaient dehors. C'était des Palestiniens et c'était des musulmans. Ma grand-mère me disait, qu'est-ce que tu fais avec ces sales Turcs? Donc j'ai vite appris qu'il y avait une histoire et j'avais pas le droit. Donc j'avais bien sûr je jouais, mais il y avait dans ma tête un interdit de me complètement me donner à cette culture autre,
Incroyable.
qui est celle des Arabes ou des musulmans palestiniens.
Et au niveau de la langue, alors quelle langue tu as appris?
Voilà.
Enfant.
Oui. Enfant, je parlais arménien avec ma grand-mère et mon autre grand-mère. Donc mes deux grand-mères, mes deux grands-parents en parlaient. Moi, je parlais arménien avec eux, mais eux parlaient turc entre eux, puisqu'ils venaient de l'Empire ottoman.
Ouais.
Mes parents parlaient arabe entre eux, puisqu'ils sont nés et grandis dans le camp
Bien
palestinien. Ils
sûr.
sont allés dans une école arabe. Et moi, je parlais arabe avec mes parents et mes frères et sœurs. Donc, je parlais arménien avec les grands-parents, mais arabe avec mes parents et arabe avec tout le monde. Je suis allée dans une école, par contre, privée, évangélique, des missionnaires anglais, évangéliques. C'était des sœurs,
Et là, tu as fait tes études en
évangélistes.
anglais.
Oui, j'ai commencé l'école. Mais bon, il y a eu beaucoup de déplacements. J'ai été à Beyrouth à un moment donné où on a vécu. Mais ça a duré 2 ou 3 ans. Là-bas, j'étais dans une garderie arménienne.
Je vais, avant de te poser la question sur les rêves, qui est le thème de l'émission, mais je veux juste évoquer avec toi quelque chose. C'est que récemment, nous nous sommes rencontrés et puis nous avons parlé de ta fille que tu as qui a 7 ans.
Elle vient d'avoir 7 ans.
Et qui va à une école arménienne. Et bon, ce qui m'apparaissait pour moi, comment dire, tout à fait naturel, c'est-à-dire que le fait que tu envoies ta fille dans une école arménienne me semblait quelque chose que tu devais faire, qui était tout à fait selon ta vie. Pour toi, semblait que c'était quelque chose de complètement irrationnel, que ce que j'ai interprété, là tu vas me reprendre, mais finalement, à l'arménien, tu n'avais pas le droit. Hein, il y a eu quelque chose qui a été dérobé. Alors est-ce que c'est la diaspora? Est-ce que c'est le génocide? Mais il y a quelque chose comme ça, et redonner à ta fille l'arménien, te redonner l'arménien te semblait un acte fou. Alors voilà, je voulais que tu me...
C'est un peu vrai, c'est ça. Donc, je ne sais pas si le génocide a beaucoup, ben sûrement il a à faire là-dedans, mais c'est mon histoire aussi personnelle. Tu as raison, c'est comme si c'est un interdit. Et ça, j'explique, dans un sens, c'était l'arménien pour moi était comme une culture clandestine. Ce n'était pas quelque chose d'évident. Premièrement, j'ai vécu les premières 14 années de ma vie dans un camp palestinien, allé dans une école anglais-arabe, où il y avait les deux langues, un peu de français. Mais voilà, c'était une culture interdite, une langue interdite. Même mon père, je dirais, il avait l'air tellement intégré, tellement arabe, que ma sœur, jusqu'à il y a quelques années, après toutes ces années, elle disait, mais mon Dieu, je croyais que papa était musulman.
Ah.
Oh là là, alors c'est vraiment... Et je pense que moi aussi, j'avais intégré ça, que nous n'étions pas des vrais Arméniens. Et pour moi, être arménienne, comme j'ai dit, n'était jamais quelque chose de acquis, de donné. C'était quelque chose pour lequel j'ai en fait travaillé. C'était quelque chose que j'ai acquis par un travail, je vais citer Janine Altounian, un travail acharné de faire quelque chose avec les restes d'une culture qui a été génocidée ou quelque chose qui a presque disparu, qui est presque disparu. Donc non, l'arménien pour moi est quelque chose qui n'est pas du tout naturel ou évident et surtout il relève de quelque chose d'irrationnel. Voilà, on revient à ce mot. Ou lorsque j'ai envoyé ma fille donc à l'école arménienne, qui est révolutionnaire dans ma famille, personne de ma famille a été à l'école arménienne, ni d'ailleurs les enfants de mes frères qui habitent à Vancouver, puisqu'il n'y a pas d'école arménienne là-bas, mais à Montréal, donc, puisqu'il y a l'école arménienne, lorsque j'ai décidé, ou je n'ai pas décidé, quelque chose en moi avait su toujours que ma fille sera arménienne. C'est fou, je sais, j'ai même presque honte de le dire, mais c'est comme ça, c'est plus fort que moi. Mais je suis tombée dans une phase de folie presque. J'étais prise par des choses complètement inexplicables et en même temps, je voulais donner des raisons aux gens qui me demandaient, mais à la garderie, par exemple, de ma fille, la garderie québécoise, j'ai voulu enlever ma fille 2 jours par semaine pour commencer l'école arménienne, pour que je m'habitue, parce que pour moi, c'était quelque chose de complètement tout neuf. Je ne savais pas comment j'allais réagir, en fait. Et j'ai dit à la garderie, j'aimerais l'amener 2 jours ou 1 jour pour commencer à l'école arménienne. Et ils ont été surpris, mais pourquoi? J'ai dit, bon, j'aimerais qu'elle apprenne l'arménien. Après, ils ont dit, mais est-ce que vous pensez qu'elle aimerait ça? J'ai dit, mais c'est pas elle d'aimer ça, c'est moi qui aime ça. Et peut-être même, je vais pas aimer ça, mais on va voir. Alors, mais je pensais tout ce temps, lorsque je donnais des raisonnements, c'était pas vrai. C'était pas des vraies choses. C'était vraiment des raisons qui venaient de la tête. Mais au fond, j'étais convaincue que c'était quelque chose de plus fort de moi, plus fort que moi. C'était quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. Elle devait aller à l'école arménienne et c'était tout. Et c'est comme ça que je voyais la chose. Pourquoi je disais que c'était irrationnel? C'est parce que je ne pouvais pas l'expliquer. Et même si je l'expliquais avec des mots et des raisons, ce n'était pas suffisant pour moi. La raison n'était pas suffisante.
Et dis-moi, l'arménien que tu avais parlé avec tes grands-parents, qu'est-ce qu'il est devenu toutes ces années?
Bon, oui, c'est une bonne question.
Parce que là, avec ta fille, donc, elle apprend l'arménien à l'école, c'est ça?
Oui,
Et avec toi, ou...
je me suis en fait reprise, j'allais te raconter ça, c'est encore une histoire un peu bizarre, mais lorsqu'on a immigré au Canada en 1981,
Alors aujourd'hui, à l'émission Rêver pour moi, je reçois Nelly Ogikian. Nelly, aujourd'hui, le jour de l'enregistrement, nous sommes le 24 avril. Et tu m'as dit que c'était une date très spéciale pour toi. Alors j'aimerais peut-être que tu commences par ça, par nous expliquer ce que représente le 24 avril.
Bon, merci d'abord de m'avoir invitée, Catherine. En fait, on n'avait pas planifié que ce soit ce jour-ci, notre rencontre, le 24 avril, mais c'est tombé comme ça, tout seul, et je m'en suis rendu compte plus tard. Et quand j'ai commencé à y réfléchir, j'étais bien sûr pas mal affectée. Et bon, voilà, je dois dire pourquoi le 24 avril, c'est le jour où le génocide systématique des Arméniens a commencé. Il a commencé par la déportation et le massacre, la tuerie de plusieurs centaines d'intellectuels arméniens qui formaient l'élite de la communauté arménienne à Istanbul. Une communauté qui comptait bien sûr dans les centaines de milliers, mais d'autres centaines de milliers. Il y avait au moins 2 millions d'Arméniens dans tout l'Empire ottoman en 1915, avec une longue histoire, des racines, puisque c'était le pays ancestral qui faisait partie de l'Empire ottoman, qui a subi plusieurs occupations par plusieurs tribus, des Mongols par exemple, des Tatars, qui a commencé par là. Mais finalement, dans l'Empire ottoman, donc, il y a eu des frictions, des conflits qui ont mené à cette décision, cette volonté humaine d'éradiquer, de déraciner, de déporter et de presque annihiler toute la population arménienne. Mais ça a commencé le 24 avril avec donc la prise en otage, prise au camp des intellectuels arméniens. Et cela me touche d'autant plus que je me compte une intellectuelle qui travaille avec des sujets arméniens, des sujets de la diaspora arménienne qui... En fait, qui est née de ce génocide. Je suis une fille de la diaspora arménienne qui est née du génocide.
Une fille du génocide aussi.
Oui, finalement, même si ça fait 3 générations, je m'identifie à ceci. Je suis née d'un Big Bang génocidaire. Et bien sûr, cette structure génocidaire,